Média francophone public.
Radio France.
RTBF.
Radio-Télévision Suisse.
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, soyez les bienvenus. La librairie francophone a 15 ans en cet automne. Et pour célébrer cet anniversaire et nous adapter aussi au protocole sanitaire de tous les pays qui coproduisent et diffusent l'émission, on lance une nouvelle formule aujourd'hui avec des nouveautés, des souvenirs et toujours notre grand voyage francophone avec nos invités. Voici le sommaire de cette édition Nouvelle Formule.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
15 ans d'émissions, 15 ans de rencontres et de souvenirs. Pour notre nouvelle séquence dédiée, nous irons à Namur avec le dessinateur Gossens et l'acteur Benoît Poulvorde. Un livre de poche vous sera aussi présenté chaque semaine. Aujourd'hui, nous serons avec la grande auteure antillaise Maryse Condé, très rare dans les médias. Nos invités en plateau avec le roman flamboyant de Maëlle Renoir, en lice pour le prix Goncourt. Il raconte la vie d'un historiographe au Maroc, un livre épique et foisonnant. Amine Mahalouf de l'Académie française est également avec nous pour un roman de science-fiction. Il imagine une nouvelle civilisation qui vient de tenter de sauver la nôtre. Troublant, perturbant en cette période. Nous donnerons aussi la parole aux bibliothèques pour des conseils de lecture des grands classiques de la littérature francophone. Ce sera à la fin de l'émission. Et un nouveau libraire chaque semaine enrichit notre équipe en liaison depuis un pays francophone. Avant de commencer cette émission, une pensée pour tous les enseignants qui, je le sais, sont nombreux à écouter la librairie francophone. Nous dédions aujourd'hui ce programme à Samuel Paty, sauvagement assassiné. J'ai la chance de contribuer à des missions éducatives avec des lycées et des collèges depuis 5 ans grâce au projet Interclasse que les auditeurs français connaissent bien. Avec des professeurs exemplaires, profs d'histoire mais aussi de français ou d'autres matières, nous transmettons et expliquons la liberté d'expression à des élèves géniaux, ouverts et divers. Et nous continuerons, encore et encore, dans le respect de tous et dans la laïcité la plus absolue. De minables barbares veulent nous faire croire que nous sommes en danger quand nous exprimons et transmettons ces valeurs. Nous ne reculerons jamais. Nous ne serons jamais impressionnés ni intimidés. L'intégrité, la solidarité et la détermination sont et seront toujours nos réponses, fermement, indéfectiblement. Les libraires, sans transition, avec Josiane Letourneau, qui représente le Canada, qui est en liaison avec nous, bien sûr. Bonjour Josiane.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à la librairie du Square à Montréal. Merci d'être avec nous. La France avec Mathieu Colombe, libraire à Aix-en-Provence, dans la librairie Goulard. Bonjour Mathieu.
Bonjour Emmanuel.
Merci d'être avec nous également. Pour la Belgique, on est avec Déborah Damblon. Bonjour Déborah.
Bonjour Emmanuel.
Toujours libraire dans la librairie La Licorne à Bruxelles.
Oui, toujours.
Toujours. Et dans cette nouvelle formule, on ouvre l'émission à un autre libraire, quelque part dans la francophonie. Aujourd'hui, on part à Alger, dans la librairie du Tiers-Monde. Bonjour Alibé.
Bonjour.
On était venu dans votre librairie enregistrer une séquence pour une émission spéciale à Alger il y a 5 ans déjà, vous vous souvenez ?
Bah, je me rappelle très très bien.
Avec Maïssa Bey d'ailleurs, qui était avec nous.
À qui nous passons un grand bonjour à Maïssa Bey.
Exactement. Bon, le principe de cette séquence, c'est de savoir quels sont les livres qui vous passionnent un peu partout dans la francophonie. Alors vous, quel est le livre que vous avez lu récemment qui vous a fasciné ou passionné, toutes catégories confondues, bien sûr?
J'ai pas voulu choisir des livres d'auteurs algériens connus ou étrangers, mais je voulais parler d'un livre écrit par une grande dame algérienne qui s'appelle Fatma Ait Mansour, dont le livre s'appelle « L'histoire de ma vie ». Donc l'histoire de ma vie, le récit de cette grande femme, elle est kabyle, chrétienne, femme et surtout poète. Dans ce livre magnifique, elle raconte sa vie de femme et le destin des femmes kabyles.
D'accord.
Elle a fait partie de 3 tribus plurielles, exposées dans les courants. Elle s'affronte sans cesse l'Orient et l'Occident, l'Algérie et la France, la croix et le croissant, l'arabe et le berbère, la montagne.
Bon,
et
alors
le
dites pas tout, ne dites pas tout.
Le Maghreb et l'Afrique.
Ne dites pas tout, mais c'est vrai qu'elle raconte sa vie de femme et le destin des Kabyles. Voilà. Grand auteur que vous conseillez, il faut absolument lire ce livre. C'est ça le message.
Alors je conseille à toutes les personnes justement parce que malheureusement c'est un livre qui passe inaperçu et que ouais. Beaucoup de gens ne le connaissent pas.
D'accord. Bon, merci beaucoup Ali Bey. Je rappelle que vous êtes dans la librairie du Tiers-Monde, une librairie historique en Algérie. À Alger, vous êtes place Émir Abdelkader dans le centre-ville.
Pour les gens qui ne connaissent pas Alger, elle est située juste en face de la statue de l'Émir Abdelkader, qui était un poète et un soufi, oui. Et qui veille sur cette librairie.
C'est vrai qu'il veille. Il est juste en face. Dès qu'on sort de la librairie, on tombe sur la statue. Merci beaucoup Ali Bey. À très bientôt. Bonne journée à Alger.
C'est moi qui vous remercie, au revoir.
Au revoir. Bonjour Claire Renaud.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire en Suisse, libraire dans la librairie Atmosphère à Genève, et vous avez une anecdote à nous raconter pour nous faire rire un peu, paraît-il.
Oui, je vais essayer du moins.
Allez-y.
Il y a quelques mois, j'ai une cliente qui est entrée dans ma librairie et qui voulait découvrir Stendhal. Elle ne savait pas quel titre prendre entre La Chartreuse de Parme et Le Rouge et le Noir. Et je suis tellement enthousiaste, je m'emballe et je lui fais des résumés absolument magnifiques, tellement magnifiques apparemment, qu'elle me demande, écoutez, Le Rouge et le Noir, je le trouve un peu gros. Ouais. Est-ce que vous ne pouvez pas juste me donner le rouge? Alors, je me suis dit, j'en ai déduit, que mes résumés n'avaient pas été très clairs.
Oui, c'est ça, elle croyait que c'était en deux tomes en fait, peut-être.
Oui, exactement. Elle croyait qu'il y avait le rouge et ensuite le noir.
C'est ça. Merci pour cette histoire, Claire Renaud. Merci à vous. Et bonjour Amine Mahalouf.
Bonjour Emmanuel.
On ne vous attendait pas sur ce terrain-là, mais vous publiez un livre de science-fiction digne d'une grande production américaine. Vous l'avez écrit en imaginant l'adaptation au cinéma, honnêtement?
Non, je ne l'ai pas écrit en fonction d'une adaptation possible, mais je l'imagine effectivement sur l'écran, peut-être.
Ouais. Alors on est sur une île inconnue, une île à l'écart du monde, à Antioche. Alec est dessinateur de presse, il y vit depuis 12 ans. Né à Montréal d'une mère américaine et d'un père français qui avait acheté d'ailleurs cette île, soudain la radio s'arrête, l'électricité et tous les réseaux sont coupés. Une tragédie vient sans doute de se produire et on l'attendait.
Alec, en tout cas, craignait une tragédie, un cataclysme nucléaire, parce qu'il y avait eu quelques tensions avant. Et quand il y a une coupure de l'électricité, de toutes les communications, il se dit « ça y est ». Les fous, ils ont dû s'envoyer des bombes les uns sur les autres et il est terrorisé. Et peu à peu, il commence à enquêter autour de lui pour essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé.
Alors les USA veulent nettoyer les armes et déchets nucléaires dangereux qui sont aux mains de personnes mal intentionnées de certains États. Mais avant de donner l'ordre, le président américain subit lui aussi cette grande coupure de courant et de réseau. Il ne peut rien faire. Et on se demande d'où ça vient.
On a l'impression que le monde est au bord du précipice, que plus rien ne peut arrêter le désastre. Et au dernier moment, il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelqu'un, au début on ne sait pas qui intervient et qui empêche la guerre.
Ouais.
Et peu à peu, on commence à découvrir la vérité.
Voilà, c'est ça. Alors, on ne peut pas tout raconter, mais on va quand même dire qu'il y a une nouvelle civilisation cachée jusque-là qui apparaît. Ce sont des humains qui étaient disséminés un peu partout et ils portent des noms grecs. Leur pays, c'est Empédocle, du nom d'un philosophe grec. Mais d'où viennent-ils en fait, Amine Mahalouf?
Vous savez, moi j'écris à la fois des essais et des romans. Dans les essais, j'exprime mon inquiétude par rapport à l'évolution du monde. Il suffit que je mentionne que mon dernier livre s'appelait « Le naufrage des civilisations ». Dans ce roman, j'essaie de prendre le contre-pied en disant « et peut-être... » Peut-être qu'un jour, quelque chose arrivera qui évitera le pire. Évidemment, c'est une fiction. Et elle s'est inspirée d'un vieux miracle qui s'est produit dans notre monde, qui est le miracle grec, le miracle athénien. Quand une civilisation est apparue, elle est sortie de nulle part. En réalité, elle a inventé la philosophie, le théâtre, l'historiographie, un peu la démocratie aussi. Et j'ai imaginé que des personnes inspirées par ce miracle ont pu réapparaître dans le monde et éviter le pire.
Oui, parce qu'ils sont très avancés scientifiquement et technologiquement. Bon, il y aurait deux humanités parallèles, deux civilisations, et certains s'inquiètent. Que vont devenir nos sciences, nos langues, nos religions, nos légendes et nos héros? Car la civilisation actuelle est fondée comme ça, à partir effectivement de religions et de légendes. C'est ça qui nous a affaiblis au cours de ces siècles, Amine Mahalouf.
Rappelez-vous ce qui est arrivé au moment de la découverte de l'Amérique. Une civilisation aztèque voit arriver une autre civilisation beaucoup plus avancée.
Oui.
Imaginez si notre civilisation d'aujourd'hui subissait la même chose. Si elle voyait arriver une civilisation beaucoup plus avancée qu'elle, comment elle réagirait? Quel type de relation elle établirait avec cette autre civilisation? Et c'est un peu la problématique qui est au cœur de ce roman.
Mais est-ce que c'est ça qui nous a affaiblis au cours des siècles? Parce que c'est ce que vous démontrez finalement. Cette histoire de religion, de héros, de légendes, les religions notamment. Il est dit qu'on est entravé finalement par une société qui s'est construite autour d'obligations. Contrairement à la nouvelle civilisation qui arrive.
Je dirais que s'il fallait prendre un élément qui explique pour l'essentiel le drame de notre époque, c'est qu'il y a eu une évolution accélérée dans le domaine scientifique, dans le domaine technologique, matériel, économique, et que sur le plan des idées, sur le plan des mentalités, il n'y a pas eu la même chose. Et donc nous nous retrouvons avec des structures mentales qui sont les mêmes qu'il y a 1000 ans, ou peu différentes, et avec des moyens matériels, scientifiques, technologiques, beaucoup plus avancés. L'idée dans ce roman, c'est qu'il pourrait y avoir une humanité qui, elle, a évolué aussi sur le plan moral, et pas uniquement sur le plan scientifique.
Bon, en tout cas, c'est compliqué. On va voir les libraires s'ils ont tout compris, et comment ils ont interprété votre roman, Amin Maalouf. Avec la France et le Canada, on commence par qui ? Le Canada, vous allez dire, j'en suis sûr.
Je ne sais pas.
Il est né à Montréal, votre personnage.
Ah oui, c'est vrai.
Eh oui,
c'est vrai qu'il est né à Montréal, mon personnage.
Allez, Josiane Letourneau, c'est à vous.
Eh bien, j'ai trouvé que même au cœur de la fiction, l'essayiste qui sait si bien nous parler du naufrage des civilisations n'est jamais bien loin. Et si toute la chair géopolitique que vous avez donnée à cette histoire est extrêmement intéressante, je crois que le squelette de ce livre, pour moi, c'est cette nécessité vitale des liens entre les humains. Et vous lire m'a permis de raffermir cette conviction que notre éphémérité et que notre fragilité ne sont pas des malédictions. Merci, M. Maalouf.
Merci à vous.
La France, Mathieu Colomb, êtes-vous d'accord ?
Pas complètement. Bon, moi, je suis tombé sous le charme immédiatement. D'abord parce que la fluidité de l'écriture est absolument magnifique. Et ensuite, bien évidemment, j'ai aimé le discours. Mais pour moi, il y a vraiment une critique de l'humanité, de la civilisation dite occidentale. Et le constat est là. Pour arriver à nous unir, en fait, il nous faut combattre l'ennemi commun ou désigné comme tel. Et d'ailleurs, pour moi, même si ce roman est beau, inventif et optimiste, il reste quand même un cri de détresse.
Un cri de détresse, un espoir aussi en même temps, et un autre danger avec ses amis d'Empédocle, c'est leur capacité à nous guérir de toutes les maladies, de tous les virus. Et ça, paradoxalement, ça fait peur aussi. Pourquoi ça fait peur, Amine ?
Je dois dire d'abord que, évidemment, ce livre a été écrit avant la crise sanitaire actuelle. Et c'est vrai que ces frères inattendus, ils ont des connaissances médicales beaucoup plus avancées que les nôtres qui leur permettent de guérir l'essentiel des maladies que nous ne savons pas encore guérir.
Oui.
Et c'est une bénédiction et aussi pour nous un peu aussi une malédiction. Parce que si quelqu'un parvient à nous donner la vie, la santé, nous sommes ses obligés, nous pourrions même être ses esclaves.
Oui.
Et c'est vrai que cela nous place dans une position d'infériorité par rapport à cette autre population.
Oui, mais en tout cas, c'est l'espoir quand même. Et vous laissez entendre que la société actuelle n'a pas intérêt à guérir tout le monde.
Ah non, c'est ce que pensent certains personnages de ce roman. Ils se posent la question. Ils disent, est-ce que nous devons accepter d'aller vers ces gens-là, accepter leurs conditions, accepter de nous soumettre à eux en échange d'une guérison? La question peut se poser. En tout cas, c'est vrai qu'il y a dans ce livre à la fois l'espoir et la détresse, parce que ce qui m'a poussé à l'écrire, c'est un sentiment de détresse par rapport à la réalité d'aujourd'hui. Mais j'ai essayé d'imaginer, à travers l'histoire que je raconte, une issue positive. Un happy ending, comment on dirait.
Pas dans la librairie francophone.
Voilà, exactement.
Une fin joyeuse, on va dire.
Voilà.
Ouais. Bon, cette nouvelle civilisation, en tout cas, elle fait la démonstration d'un autre modèle de vie, celui de tout miser sur la santé. C'est ce qu'elle fait, elle. Elle mise tout sur la santé. Alors que nous sommes sur le modèle économique, sur la religion, on en parlait tout à l'heure, les héros, les légendes, enfin tout ce qui nous entrave, tout ce qui fait notre histoire. Mais cette civilisation-là, elle a choisi la santé d'abord.
Il est vrai que notre civilisation souffre aujourd'hui de n'avoir pas donné suffisamment de place à la santé. Notre civilisation, depuis au moins une quarantaine d'années, donne beaucoup trop d'importance à ce qui est profitable, à ce qui est rentable. Et la santé, par définition, ce n'est pas un domaine rentable. Donc, on a beaucoup trop économisé sur les dépenses de santé. Et aujourd'hui, on le paye. On le paye parce qu'on n'est pas équipé pour faire face à la crise actuelle et à d'autres crises qui pourraient survenir.
Mais alors, c'est la grande question que se pose le monde aujourd'hui, Amin Maalouf. Faut-il tout miser sur la santé ou faut-il préserver le système économique? Et chaque pays, on le voit en ce moment, a des stratégies différentes. Mais chacun observe l'autre de près parce que personne ne veut prendre les risques tout seul.
Je crois que si on avait suffisamment prêté attention à la santé, on n'aurait pas eu ce dilemme aujourd'hui. Ce qui a provoqué le dilemme, c'est qu'on avait peur d'un écroulement du système de santé. Les pays qui n'ont pas fait ce choix-là, qui ont continué à investir dans la santé, n'ont pas eu le même problème et ça nous conduit à réfléchir à notre modèle économique et à notre modèle de société.
Merci beaucoup Amin Maalouf. Merci d'être revenu. Vous êtes un fidèle hein, de la librairie francophone. Merci à vous. Nos frères inattendus est paru aux éditions Grasset. C'est un roman passionnant, Amin. Vraiment passionnant. Lisez-le. À suivre une nouvelle séquence autour des 15 ans de l'émission avec Benoît Poulvorde et Daniel Gossens. Notre séquence Livre de poche avec Maryse Condé, très rare dans les médias. Avant cela, on écoute PR2B. Merci à vous d'écouter la librairie francophone à travers le monde.
Je suis dans la vie comme dans mes rêves. Et quand je crève, je suis le cri de qui me croit ou qui me prie. J'aimerais dire que je sais ma route et que je ne doute que quand j'ai bu. Mais vu que je suis à nu, plus personne avec qui ruminer mes envies et vivre sans avoir l'air cher comme un courant d'air. Derrière la vie, mon frère pleure de me voir si triste. Dans mes rêves, ils ont tout pris, tout pris. Le monde crève, mais on sourit. T'es 5 heures et je me lève, vent sûr dans mon lit. Je n'ai pas dormi aussi mal que depuis la nuit où j'avais rêvé avoir tué de sang-froid un homme. Bam avec une âme que j'avais trouvée là sur le sol. Mes jours se suivent et ne se ressemblent que par leurs bêtises. Je n'attise pas le feu, mais je veux qu'on me dise pourquoi la vie est une pute. Pourquoi veut-elle qu'on l'écoute pour nous pousser vers la chute avec l'amour dans les côtes. J'ai pris le métro et j'ai vu la peur dans leurs yeux. Ils ne fuient plus, ils se flippent tous et les flippent. Pour celui qu'on tue, ils ne regardent plus que leur smartphone. Dans mes rêves, ils ont tout pris, tout pris. Le monde crève, mais on sourit. C'est un rêve où ma folie, folie. Les gens rêvent et puis oublient. Je suis dans la vie comme dans mes rêves. Sans trêve, je voudrais que crèvent tous les artifices pacifistes. Je n'en suis pas moins en colère. J'aimerais bien que la chair se rebelle à la terre. Je rêve que les rues d'Hollywood se fendent en deux. Les stars au coude à coude et les pauvres au milieu. Plus rien sur la montagne, désespoir démenti. Plus rien que la complainte pathétique des nantis. Je rêve tous les soirs quand je suis dans mes songes. Les visages émaciés qui s'en vont vers les tombes. Les fantômes obscurs, des rues sans objectif. Les rêves à la chaîne d'un beau pays fasciste. Il y a dans les yeux toujours un peu d'espoir. Je veux dans le noir y croire, toujours y croire. Même les chiens n'en peuvent plus d'obéir à leur maître. Je ne serai jamais à eux. Ce matin il fait beau et je signe avec mes doigts le sang d'hier qui sèche vivra à travers moi. Et toi, nous irons danser comme tous les samedis. Je ne pense qu'à rêver. Que les étoiles oublient quand les cœurs et les corps sont au même BPM. Je m'oublie et puis j'oserais te dire que je t'aime. Dans mes rêves, ils ont tout pris, tout pris. Le monde crève, mais on sourit. C'est un rêve.
Ça ressemble à la chanteuse belge Angèle, mais c'était la chanteuse française PR2B dans la librairie francophone avec des rêves. Pour les 15 ans de l'émission, nous piochons chaque semaine dans nos archives une rencontre, un reportage ou un entretien en extérieur. Pour cette première, on part à Namur en Belgique où nous avions initié une rencontre inédite à la radio entre le dessinateur Daniel Gossens et l'acteur Benoît Poulvorde.
Les médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio Canada,
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Bonjour Daniel Gossens.
Bonjour.
Bonjour Benoît Poulvorde.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission qui est un peu la vôtre maintenant. Daniel, vous êtes l'un des dessinateurs emblématiques de Flûte Glaciale. Vous êtes un immense dessinateur. Vous venez de publier Combat aux éditions Flûte Glaciale. C'est un album très représentatif de votre univers, je trouve. Vous êtes parti de l'idée que nous créons tous des combats intérieurs. On trouve toujours un prétexte pour avoir un combat à mener.
Voilà, j'ai cette impression que on vit avec la tentation permanente de trouver enfin un combat. On a une sorte de procès chronique dans la tête contre les autres, tu vois. Je veux dire, on aimerait bien que nos mérites soient reconnus, on aimerait bien être à l'avant-plan, toutes ces sortes de choses. Ça, c'est d'une banalité énorme, hein. Quand tu lis le fonctionnement social avec cette grille, d'un seul coup, il y a plein de choses qui t'apparaissent d'une clarté, d'une limpidité. Voilà.
Quel combat menez-vous alors, Benoît?
Excusez-moi, je termine ma cacahuète. Je pense que je n'en ai pas. Tout est combat, parce que tu te dis, j'ai acheté un bête truc sur une... Ça me fait rire. Dans une station essence, et c'est un bête dessin. Et tu sais, c'est les magnètes qu'on met sur les frigos. Il est écrit avec une phrase, tu sais, qu'une vilaine typo. Pour arrêter de boire, il faut éloigner ton verre. C'est tout. Eh bien, je trouve, voilà, c'est déjà un petit combat.
Dans cette BD, il y a Jésus qui revient avec un nouveau combat à mener, sauf que il roupille plus qu'il ne travaille. Il y a aussi Dieu complètement dépassé qui va se défouler dans un bar du coin. Même Dieu ne peut pas mener normalement un combat aujourd'hui.
Oui, c'est ça.
Au contraire, il est préparé. Il s'endort parce qu'il est trop bien préparé.
Oui, enfin.
Non, il veut bien revenir sur Terre, mais maintenant il a potassé, quoi. Donc, c'est un mec.
Mais il roupille. Ouais.
Bah, il s'ennuie parce qu'il connaît le sujet et que tout le monde est d'accord avec lui. Évidemment, j'aurais pas fait autrement. Bien sûr, monsieur Jésus. Ouais, évidemment.
Les combats sont souvent ridicules par la démesure, pas par le combat lui-même. Justement, la dérision, pour moi, elle se moque pas des combats eux-mêmes. Hein, uniquement de cet emballement invraisemblable qui est une mine quand on fait de la dérision, quoi.
Ah oui, c'est vrai. On puise là-dedans. J'ai entendu une phrase formidable, parce qu'il y a tout le temps la question, peut-on rire de tout? Et il y a un dessinateur qui s'appelle Luz, je crois.
Luz, oui.
Et qui a dit, oui, on peut rire de tout, mais il faut juste savoir pourquoi on rit. Et c'est une très bonne réponse. Je dis, mais en effet, c'est la meilleure réponse que j'ai entendue, tu vois. Parce qu'il y a la phrase de des proches, oui, mais pas avec n'importe qui. Et je trouve que cette réponse est formidable. Oui, mais pourquoi on rit? Ce qui me fait rire, parce que je ris tout le temps, c'est les commandements. Parce que tu te dis, il y avait un dessin. C'était pas Gottlieb qui avait fait, où il laisse tomber tous les. Ah non, c'est les Monty Python. Il laisse tomber toutes les tablettes, il dit, bon, ben, il y en aura, 10, allez. Mais non, ce qui me fait rire, il y en a un qui s'appelle quand même, tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin. Et là, j'imagine vraiment un mec qui dit, rajoute ce truc-là. Et j'imagine l'autre qui est en train de taper le truc, il dit, mais non, ça sert à rien, c'est parce que t'es concubé, arrête de nous emmerder avec ça. Rajoute-le, je te dis. Mais non, c'est trop terre à terre, quoi. C'est terre à terre, ce truc, hein. Ça te concerne, toi, ça va emmerder tout le monde, hein. Rajoute-le, comme ça je suis peinard. Ok, d'accord. Donc, moi, ce que j'aime bien, ce que Daniel fait très bien, c'est qu'il déjoue tous ces trucs-là.
Ouais, c'est ça.
Si tu veux rigoler de la religion, tu te dis, écoute, il a quand même fait Jésus, les dernières images de Jésus avant l'accident, en vidéo. Donc, il dessine de la vidéo. Essayez déjà de voir comment on fait.
La vidéo de surveillance qui a suivi Jésus.
Voilà, qui a suivi Jésus juste avant de monter sur la croix et on le voit rigoler. Donc, tu vois 10 secondes, tu vois une image de Jésus qui est là. Il rigole encore avec ses bourreaux. Donc, on voit les rombacs là. Que s'est-il passé? Et là, il déjoue la télévision.
Prenons l'exemple de Jésus. Si tu parles à quelqu'un qui dit Jésus, c'est l'incarnation de la faiblesse, de la souffrance humaine, etc. On ne peut pas se moquer de ça, on est bien d'accord. Mais il y a quelque chose de puissant dans Jésus. Alors c'est quoi s'il est l'incarnation de la faiblesse et tout ça? Il y a quelque chose de puissant et tout le monde le sait, c'est l'influence. Voilà, l'influence sociale qu'il a. Et tout le monde peut utiliser Jésus pour faire n'importe quoi, pour faire une secte. Et c'est ça, c'est de ça qu'il faut se moquer, tu vois. C'est de la mise en scène.
Je voudrais quand même faire une petite...
Benoît Poulvorde.
Oui, un petit rajout dont on n'a pas encore parlé, mais c'est le dessin, le dessin de Daniel Gossens. Tu es un dessinateur époustouflant, à mes yeux, époustouflant.
Il sait tout faire, c'est vrai.
C'est-à-dire que moi, c'est une des rares fois où j'ai vu dans ma vie quelqu'un où son mode d'expression est à la hauteur de sa pensée.
Oui, c'est vrai, il suffit d'aller voir sur Internet d'ailleurs, hein, si on ne connaît pas Daniel Gossens, d'aller voir les dessins de Daniel, c'est incroyable dans tous les genres, un dessinateur exceptionnel. Daniel Gossens, vous avez dit que Benoît Poulvorde, je cite, incarne complètement cette hystérie communicante que je tourne en dérision dans tous mes albums.
Oui. Je confirme, je te dis, quand tu me dis cette idée que le dessin est toujours adéquat avec ce que je veux faire jouer au personnage, au final, j'ai quand même une seule façon de faire jouer des personnages, et moi je trouve que t'as ça, voilà, dans le jeu d'acteur.
Toujours dit, bon, on va pas se congratuler comme ça, respectivement.
Il est gêné maintenant.
Oui, je suis gêné.
Ouais. Mais toujours gêné. Quand on lui fait des compliments, bon, non, il est gêné. Non,
mais là, il a raison, parce que
par contre, il en fait plein aux autres.
Bonjour, Jam.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, ça on vous connaît, Benoît. Pas, pas tout le monde. On va terminer avec une citation de Combat, complètement misogyne. On peut dire ça à la radio, finalement. Bon, ça a suscité des réactions, mais bon. Une voiture consomme beaucoup moins qu'une femme nue. Elle est plus simple à nettoyer, on peut la caresser quand on veut.
Mais attendez, il faut le situer dans son contexte. On est dans un cas de figure où la femme nue ne fait plus recette. Et donc il y a des gens qui se réunissent entre eux pour dire « on va mettre une bagnole en dessous ». Et donc, il y a forcément des hystériques de la femme nue. Tu vas dans les salons de voitures, pourquoi il y a des pauvres filles qui sont debout toute la journée avec des hauts talons et qui attendent bêtement près de la voiture? Et tu te dis, le jour où quelqu'un va dire, je crois que ce n'est pas logique. On n'avait pas encore vu avec une très vieille femme. Tiens, une très vieille femme qui tire là. Oh ben, vous, c'est quelle bagnole? C'est celle-là, moi. Peut-être qu'un jour les modes vont changer. Et c'est ça, déjouer les codes. C'est rire où tu te dis, tiens, on va mettre une femme très très âgée qui vend une voiture. Et peut-être que ça fonctionnera. Peut-être qu'un jour quelqu'un va nous dire, on s'est gouré sur les codes. Merde.
Merci beaucoup, Daniel Gossin.
Merci, merci à vous.
Merci beaucoup, Benoît Poulvord.
Merci, c'était un plaisir.
Pour votre grande fidélité à la librairie francophone.
Ah,
voilà.
J'adore. De toute façon, j'adore. J'adore le fait qu'on prenne le temps de partager. Je trouve ça formidable.
Merci, Benoît. Merci beaucoup.
Merci à vous. Il faut toujours que j'ai le dernier mot. Hein.
Allez, les coups de gueule et les coups de cœur des libraires tout de suite. En Suisse, un coup de gueule, Claire Renaud, ça va calmer tout le monde.
Oui, alors, comme si on ne parlait déjà pas assez de la pandémie du Covid dans les médias, moi je sature avec le titre du genre « Ma vie sous le Covid »,« Ma vie de confinement » ou « Mon journal de Covid ». Donc je fais un avis à tout le monde, c'est que chez moi, vous ne trouverez pas de rayon qui s'intitule « Soit pandémie, soit Covid
». Ça existe dans certaines librairies?
Je ne sais pas, je me suis posé la question.
Oui, parce qu'à force, oui, on n'en peut plus, c'est vrai, du Covid, mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On est complètement piégés, c'est horrible, horrible, mais voilà, c'est comme ça. Bon, bon courage Claire, de votre côté, et arrêtez de lire les livres sur le Covid, vous avez raison. Au Canada, un coup de cœur, Josiane Letourneau.
Ben oui, j'ai envie de vous parler d'une BD jeunesse qui m'a rappelé certains contes de l'étrange classique dans la forme et l'atmosphère, c'est Le garçon au visage disparu de Larry Tremblay avec des illustrations de Pierre Lecrenier. Vous savez, Larry Tremblay a le don d'écrire des histoires qui nous remuent.
Ah oui.
On y suit Jérémy, oui. On y suit Jérémy, un garçon qui s'amuse à tester les gens qui l'entourent avec ses fictions personnelles. Et la disparition de son visage dont nous sommes témoins dans l'album résonne plus loin qu'une simple histoire d'épouvante. On frémit. On est touché aussi par ce qui se révèle au fil de l'œuvre. Le travail d'illustration de Pierre Lecrenier incarne cette profondeur avec un art tout en texture et en jeu chromatique. Bref, c'est une œuvre singulière à découvrir, bien, qui fait partie de la sélection préliminaire du Prix des libraires dans la catégorie BD Jeunesse 2021.
Larry Tremblay, le garçon au visage disparu, c'est une bande dessinée grand auteur, Larry Tremblay, que l'on salue au passage. Je sais qu'il écoute cette émission. En France, un coup de cœur également, Mathieu Colombe.
Oui, tout à fait, et c'est pour Sur les traces de nos peurs de Georges Duby. Alors en fait, c'est une réédition d'un petit entretien qui a été fait par lui avec des journalistes chez Textuel et qui était sorti en 1995. À cette époque-là, Georges Duby exprimait un peu ses attentes pour le millénaire qui venait en racontant en fait les peurs du millénaire d'avant. Lire ça 25 ans plus tard donne un petit goût amer parce que bah, l'optimisme de Duby, certes, c'est très beau, mais en fait, on se rend compte en 2020 que nos peurs restent sensiblement les mêmes qu'à l'époque et qu'elles sont toujours instrumentalisées par certaines personnes pour garder du pouvoir sur d'autres.
Sur les traces de nos peurs, de Georges Duby aux éditions textuelles. Merci beaucoup Mathieu. En Belgique, un coup de gueule, Déborah Damblon.
Mais oui, un coup de gueule, Emmanuel, contre un invraisemblable courrier que une auteure du Brabant Wallon a reçu et m'a transmis. Et donc, en s'étant bousculée pour la culture et pour l'enseignement, cette province assez cossue a décidé d'implanter des projets d'écriture dans les écoles de sa région.
Oui.
Et de les faire parrainer par les auteurs locaux. Je vous vois venir, Emmanuel, vous allez me dire, mais c'est une très bonne idée, pourquoi tu ronchonnes encore? Eh bien, le problème, c'est que ces pauvres auteurs, eh bien, on leur demande de le faire bénévolement.
Ah.
Eh oui, Ben, comme si l'amour de l'art, ça allait suffire pour vivre et pour remplir le frigidaire.
Oui, c'est pas possible. Oui, un minimum quand même, oui, c'est normal. Vous avez raison. Non, vous ne ronchonnez pas toujours pour rien, Déborah, c'est pas vrai.
Ah, c'est un bruit que vous faites courir parfois.
Mais c'est pas vrai, jamais de la vie.
Mais pas du
tout. Mais vous êtes tout le temps emballée, vous êtes tout le temps joyeuse, tout le temps généreuse, pas du tout.
Ah, merci, bon, c'était allez. Pour que vous me disiez ça.
Ouais, c'est ça. Allez, Maline. Bon, merci Déborah. Notre séquence livre de poche à présent, pour tous les publics et tous les budgets, Maryse Condé a publié en 2012 La vie sans phare, un livre qui est disponible en poche chez Pocket, un roman qui nous entraîne dans les coulisses de sa vie en Afrique, le parcours d'une grande figure de la littérature antillaise.
J'ai dit tout il appelle, tout il est veuve. Et c'est vrai. Il y a le sentiment, le besoin d'un dépassement. L'île appelle d'autres îles. L'île appelle l'archipel.
La librairie francophone.
Et tout naturellement, chez moi, l'île Martinique, l'île Antilles, mais ça appelle, au fond, le continent, la mer Afrique.
Emmanuel Kérad.
Bonjour Maryse Condé.
Bonjour.
Aimé Césaire, que vous avez toujours admiré, vous l'avez reconnu bien sûr.
Oui.
L'île appelle l'ailleurs, vous êtes d'accord? L'île génère le départ?
Oui, mais je pense que c'est pas l'île seulement. C'est des gens qui, comme moi, sont nés dans un petit pays, tout petit. Alors, aussitôt vous avez envie de connaître le reste du monde, vous sentez que votre pays est sans importance, qu'on n'en parle jamais,
ouais.
Et vous avez envie
d'aller voir ailleurs. Ouais, c'est ça. Vous êtes une écrivaine antillaise connue dans le monde entier, vous avez reçu de nombreux prix, dont le prix de l'Académie française en 88. Alors on vous suit en Afrique, votre vie en Afrique, hein. Vous avez vécu dans plusieurs pays d'Afrique. Vous rencontrez surtout un homme, Mamadou Condé, c'est à Paris que vous vous mariez, ça ne fonctionne pas, hein. Ça dure à peu près 3 mois, mais un jour vous apprenez par le gouvernement français, en 1959, que les Français peuvent, s'ils le souhaitent, partir travailler en Afrique. Donc vous y allez, vous vous retrouvez là-bas, et vous dites « Mon premier contact avec l'Afrique n'éveilla aucun coup de foudre ». Et ce qui vous choque tout de suite, Maryse Condé, c'est le mépris des Africains pour les Antillais.
Oui, je crois que les choses ont changé. Je crois que les Antillais étaient mal perçus par les Africains. Ils arrivaient comme des toubabs, comme des blancs, convaincus qu'ils savaient tout, qu'ils allaient tout changer. Et en fait, l'Afrique se refusait à eux, ne voulait pas d'eux et les rejetait un peu.
Est-ce que c'est pour ça, Maryse Condé, que vous ne vous intégrez pas, que vous ne voulez pas apprendre la langue ou endosser les coutumes locales? Vous écrivez à un moment un passage assez dur, vous dites « S'intégrer se résumait-il à modifier superficiellement son apparence, baragouiner des langues? La véritable intégration n'implique-t-elle pas avant tout une adhésion de l'être, une modification spirituelle ?»
Oui, parce que dans tout le pays d'Afrique, on m'a demandé de parler la langue, de changer une coiffure, d'avoir des tresses, de porter un boubou. Je crois que vraiment, pour m'intégrer, pour être aimée, acceptée, devenir une sœur des gens parmi lesquels je vivais, il y avait d'autres critères sur lesquels on pouvait se baser.
Mmh. Et le critère principal, c'est la personnalité, c'est ce qu'on est au fond de soi.
Je crois qu'on peut aimer des gens, aimer un peuple, il est très différent.
Ouais.
Mais le cœur peut être ouvert et disponible. Et ça, personne ne fait jamais attention au cœur.
Alors il y a des passages terribles, hein, Maryse Condé, dans ce livre-là. Au Ghana, par exemple, on vous accuse à un moment d'espionnage, on vous arrête, vous partez en prison, vous décrivez cette liberté qui s'échappe, cette dissolution de la personnalité, comme vous la nommez,
oui.
On vous expulse, vous perdez votre amour, vous perdez votre histoire et vous dites « L'Afrique ne se bornait pas à me rejeter, elle me dénudait. Non seulement elle prenait mon homme, mais elle annihilait mon passé, mes références. En un mot, elle détruisait mon identité, je n'étais plus rien. » Rien.
Oui, j'ai eu l'impression que j'étais rien du tout. Elle me traitait un peu comme une paria.
Ouais.
Elle ne faisait pas du tout attention à mon cœur. Une fois de plus, mon cœur, ce que je pensais, ce que je sentais, ce que j'imaginais. En fait, j'étais victime d'une injustice terrible. Ouais.
Vous pensez que les refuges se dérobent toujours à un moment, que quand on quitte sa terre natale, elle manque à tout jamais, même si on s'efforce de l'oublier, elle ressurgit?
Non, un moment arrive où on voit que la terre natale est toujours avec vous. Maintenant où je vis à New York, je sais que la Guadeloupe est avec moi. Je ne cherche plus. Je n'ai pas tellement envie de retourner à Petapietoabasea. C'est avec moi. Le pays est avec moi. Mais pour arriver à cette conscience, il faut du temps.
Ouais. La vie sans phare de Maryse Condé en livre de poche chez Pocket. Dans un instant, le roman le plus flamboyant de la rentrée littéraire. On part au Maroc avec Maëlle Renoir. Et voici le groupe créole Del Grès dans la librairie francophone. C'était Del Grès avec 4 Ed Maten.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Et bonjour Maëlle Renoir.
Bonjour Emmanuel Kéval.
Vous publiez L'historiographe du royaume aux éditions Grasset, un livre sélectionné pour le prix Goncourt. Votre narrateur a 15 ans, il vit au Maroc. Nous sommes à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il est choisi parmi les élèves brillants et pauvres des villages pour entrer au Collège Royal. Plus qu'une récompense, c'est une mission.
C'est une mission au sens où, effectivement, il va être conduit à accompagner le roi, le futur roi, puisqu'il n'est encore que prince.
Le prince héritier, oui.
Comme conseiller, comme membre de son entourage. Ce qui, dans ce que j'ai pu lire en tout cas, ce qui correspond à une réalité du système monarchique marocain. Mmh.
Le prince héritier, fils du sultan Mohamed V, ce prince qui deviendra donc Hassan II. Alors, c'est un professeur d'histoire qui va ouvrir l'esprit des élèves de la classe. L'esprit de votre narrateur, du prince, Monsieur Delay, va être tout au long du roman un enseignant qui laissera une trace, qui sera non pas une source d'inspiration, mais une lumière qui éclaire le chemin de votre personnage quand il en aura besoin.
J'avais lu dans les mémoires de SN2 qu'il rendait lui-même hommage à ses professeurs français du Collège Royal. Certains étaient marocains, mais il y avait des professeurs français. Et il dit même, quelque part, dans une interview à SN2, que s'il n'avait pas été roi, il aurait voulu être historien et professeur d'histoire.
Ouais. C'est un prof d'histoire, donc, qui va contribuer à la liberté de penser et qui va donner des clés pour avancer dans la vie.
Oui, évidemment, j'avais pas du tout en tête l'actualité tragique au moment où le roman a été composé, mais c'est un professeur d'histoire qui a pour élève un futur historiographe. L'historiographe étant celui qui écrit l'histoire au moment où elle est vécue à la cour du roi.
Ouais, sous le contrôle du roi. Donc il écrit l'histoire, mais il s'arrange un peu avec la vérité. En tout cas, on lui demande de s'arranger un peu parfois.
Alors, c'est effectivement une histoire officielle qui peut comporter quelques arrangements avec la vérité, effectivement.
Bon, en tout cas, donc, ce professeur d'histoire va permettre de voir les choses autrement, de s'ouvrir au monde et de se mettre à la place de ceux qui ont vécu les faits historiques enseignés. C'est cela qui a incité le narrateur à se cultiver, à écrire même. Il est très brillant, mais c'est un rival pour le prince.
Alors, il a effectivement pour caractéristique d'avoir le même âge que le prince et d'être le meilleur élève de la classe du Collège Royal.
Eh oui, oui.
D'être aussi assez bon pour le battre aux échecs, ce qui est une situation toujours très complexe. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on joue face à un personnage beaucoup plus puissant que soi? Est-ce qu'on doit toujours le laisser gagner? Ce qui peut paraître quand même un peu bas ou un peu courtisan comme attitude. Ou est-ce qu'on laisse gagner ou est-ce qu'on gagne de temps en temps pour lui montrer que justement, on ne joue pas à ce jeu-là.
Enfin,
Donc, mon personnage va connaître sa première grâce et sa première disgrâce à l'occasion de parties d'échecs à l'internat du Collège Royal. Oui.
Bon, vous racontez comme ça toute l'histoire du Maroc, du protectorat, de l'indépendance, de l'accession au trône du prince qui devient donc en 1961 le roi Hassan II, alors que votre narrateur espère qu'on le nomme à un moment auprès du roi, à la cour du roi, puisque c'est un ancien élève du Collège Royal, et quand le prince accède au pouvoir, il se dit « bah voilà, je vais être autour de lui ». Sauf que ça ne se passe pas vraiment comme ça, il se fait plutôt humilier. Régulièrement.
Oui, alors sa vie est faite de coups de théâtre. C'est-à-dire, en gros, il ne lui arrive jamais ce à quoi il s'attend. C'est-à-dire que quand il imagine une promotion, c'est une humiliation qui survient. Et quand il croit que tout est fini, tout est perdu, d'un coup, le roi le promeut. En l'occurrence, effectivement, en 1961, donc quand Hassan II succède à son père, il se dit, après tout, je pourrais peut-être être nommé secrétaire d'État. Ce qui est d'ailleurs arrivé, hein. J'ai rencontré tout récemment le fils d'un ancien ministre qui avait été au Collège Royal avec Hassan II. Donc c'est tout à fait plausible comme ambition de la part de ce personnage. Ouais. Et c'est à ce moment-là que le roi l'envoie dans une province très reculée, entre le désert et l'océan, là où Saint-Exupéry était chef de base pour l'aéropostale dans les années 20. Mais c'est vraiment
à Tarfaya.
Un endroit
face aux îles Canaries.
Où il doit, en quelque sorte, imaginer la construction d'une université, mais c'est un petit village de pêcheurs, donc c'est une mission complètement absurde.
C'est ça, oui. Tarfaya, qui est connu d'ailleurs effectivement pour son aérodrome, ancienne escale de l'aéropostale, et aujourd'hui même, il y a un musée.
Il y a un petit musée, oui.
Saint-Exupéry, à Tarfaya. Bon, il se souvient d'une anecdote aussi que lui raconte ce professeur d'histoire, celle d'un homme fouetté par un empereur pour s'être cru l'égal du souverain. Tout est là en fait, c'est que votre personnage, toute sa vie, il est fidèle au prince, et plus il est fidèle, plus il va se faire humilier, plus il va aller dans des missions ou avec des décisions du roi qui démontrent en tout cas qu'en aucun cas ils ne sont amis et encore moins égaux.
Oui, j'avais beaucoup frappé ce petit passage de Plutarque, je crois que c'est dans la vie de Septime Sévère, où il est raconté qu'un homme qui avait été à l'école avec le futur empereur le voit passer dans la rue, dans un défilé officiel, dans un cortège, et il lui fait un salut, enfin, est-ce que tu te souviens de moi? Et évidemment, l'empereur prend très mal ce geste, fait interpeller cet homme et fouetter. Et donc Plutarque raconte ça dans ses vies parallèles. Et le professeur d'histoire, le professeur Delay, lui dit, c'est une sorte de mise en garde à son intention. Et justement, dans l'histoire du Maroc, il y a un fait anecdotique assez frappant, c'est que Mehdi Ben Barka avait été le professeur
de mathématiques,
du prince au Collège Royal et va se trouver dans les années 60, alors qu'il est le chef de l'opposition de gauche, va se trouver éliminé dans des circonstances qui restent d'ailleurs encore ténébreuses, mais qui sont assez tragiques.
Bon, deux libraires ont lu ce roman, Maëlle Renoir, La Belgique et la Suisse. On va commencer avec la Belgique, Déborah Damblon.
Monsieur Renoir, Emmanuel va pouvoir témoigner. Moi, j'aime qu'on me fasse voyager. Et puis, j'aime bien qu'on me raconte des histoires qui me passionnent et puis qui me tiennent en haleine. Et j'aime aussi beaucoup, beaucoup quand le vrai et le faux se mélangent et qu'on n'a plus du tout envie, surtout, de les démêler, de peur que la réalité soit moins belle que la fiction. Et puis, finalement, j'aime infiniment quand l'écriture s'épice pour nous raconter les choses, mais vous voyez, sans les dire, sans appuyer. Donc, bref, vous l'avez compris, votre roman, je l'ai aimé, mais d'un bout à l'autre et sous tous ses aspects.
Voilà.
Ouais, merci.
C'est plutôt pas mal. Allez, la Suisse avec Claire Renaud. Claire.
Oui, alors moi j'ai envie de dire que ce livre, il s'adresse à tous les amoureux de la langue française, tellement votre langue, elle est belle. C'est un véritable régal. Et on a envie de replonger du coup dans les classiques du 18e. Oui. J'avoue avoir eu un peu de peine au début à entrer, mais rapidement, on se laisse bercer par vos jeux de pouvoir, par tout ce que ressent ce héros. On est avec lui, on vit avec lui, on a peur avec lui, on attend avec lui. Et en fait, par cette lecture, vous nous offrez un très beau voyage au cœur de l'histoire du Maroc, que je connaissais très mal, personnellement. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Voilà, Maëlle Renoir, vous avez séduit nos libraires. C'est vrai que c'est un livre épique, très documenté, peut-être trop parfois. On y croise de grandes figures de l'époque. Senghor, Ben Barka, on en parlait, Sartre et plein d'autres, même Tintin. C'est construit à la façon des mille et une nuits, dans un style virtuose. Tout se croise, s'entrecroise. La démonstration historique est parfaite. C'est un grand roman. Et vous êtes un peu le nouveau Mathias Sénard, en fait, Maëlle.
Merci
ça m'a fait penser à Boussole.
Oui, pour ce parallèle, mais je
qui a eu le prix Goncourt d'ailleurs.
Je pensais non plus à rivaliser avec Mathias Sénard, mais pour revenir sur ce que disaient les libraires, il y a un travail stylistique sur ce livre qui a d'ailleurs rallongé la durée de son écriture. À partir du moment où le personnage devient historiographe du royaume, ça, pour moi, ça faisait référence au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle également. Et j'ai eu envie que ça s'inscrive aussi dans le style de ce narrateur. Et je me suis replongé. Il y a eu toute une période où je n'ai lu que des livres du XVIIIe ou du XVIIe siècle pour retrouver des tournures.
Ah, pour vous imprégner,
Pour travailler le style du livre.
Bon, il y a Amine Mahalouf de l'Académie française qui vous regarde avec une grande attention. Il faut savoir que vous êtes aussi en lice pour le prix de l'Académie française. Amine Mahalouf, vous connaissiez cette histoire ? Des historiographes comme ça au Maroc avec la cour du roi ?
Non, mais j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt et il y a un souvenir personnel qui va dans le sens de ce que disait Maël. J'ai publié il y a longtemps un roman qui s'appelait « Léon l'Africain ». J'avais fait une tournée au Maroc et j'avais rencontré à ce moment-là le roi Hassan II.
Ouais.
Et il m'avait emmené dans le jardin du palais royal. On s'était assis dans un pavillon. Il m'a dit, vous savez, vous avez beaucoup de chance de vous intéresser à l'histoire. Moi, c'était ma passion.
Ouais.
Et je voulais faire des études d'histoire. Et mon père m'a dit, tu vas être roi. Tu as besoin d'étudier le droit. Ouais. Parce que le droit te sera utile alors que l'histoire ne te sera pas utile. et donc, ça va exactement dans le sens de ce qu'il disait Maël. Il était passionné d'histoire, mais il a été frustré de cette passion.
Mais alors, est-ce que ce professeur d'histoire, il existe vraiment dans la vraie histoire, l'histoire avec un grand H ?
Non, pas du tout. Non. Ni le narrateur, ni les principaux personnages.
C'est vous qui l'avez inventé, ça ?
Ouais. Oui, oui. Non, ce que j'avais lu, c'est qu'il y avait effectivement des professeurs français au Collège Royal.
Et un intérêt pour l'histoire.
Celui-ci est inventé. Oui.
Bon, alors, après 7 ans d'exil, il est appelé au palais pour voir le roi, mais on le fait attendre toute l'après-midi en vain. Alors, il retourne à Tarfaya. Il en vient même à espérer mourir. Il est désespéré, le pauvre. Mais le lendemain, il apprend qu'il est nommé historiographe du royaume.
Cet épisode est inspiré de choses qu'on m'a racontées. Hassan II était coutumier de faire attendre des gens pendant toute la journée et de ne finalement pas les recevoir.
Ouais.
Et quelquefois, le lendemain, il les gratifiait de très grandes faveurs. Il avait vraiment un art de souffler le chaud et le froid sur ses conseillers. Au début, en tout cas, il est plutôt satisfait d'être nommé historiographe du roman, ouais, parce qu'il est lui-même, étant poète, il est sensible, comme je l'ai été moi-même, à la poésie de ce titre.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, merci beaucoup, Maël Renoir. Merci beaucoup d'être venu. Je rappelle que vous êtes donc en lice pour le prix Goncourt. C'est le roman le plus flamboyant de la rentrée littéraire. C'est le point de vue, en tout cas, de la librairie francophone. Merci. Je vous souhaite bonne chance pour ce prix, Maël. Et peut-être merci aussi Emmanuel. Pour bonne chance pour l'Académie française. On ne sait pas lequel il vaut mieux avoir, on ne sait pas. Bref, c'est compliqué. C'est chez Grasset, historiographe du Royaume. Merci beaucoup, Amine Mahalouf. Merci à vous, merci à tous les deux. On a fait les interviews avec des masques et franchement, c'est très compliqué. Vous avez fait l'effort, merci beaucoup. À très bientôt.
Merci.
Maël, je vous présente une nouvelle séquence. Tiens, avec chaque semaine, la parole aux bibliothèques. Vous allez dans les bibliothèques ? Vous y êtes allé forcément pour les recherches ?
Oui, oui. Alors, il y a des bibliothèques dans le 5e arrondissement que je fréquente très régulièrement, celle de l'École normale et celle de l'Institut du monde arabe.
Cap sur la Belgique, là, pour le coup, à Forêt, dans la communauté de communes de Bruxelles. Bonjour, Bénédicte Plovier.
Bonjour Emmanuel.
Merci d'être avec nous. Vous êtes bibliothécaire à la Bibliothèque de Forêt. Donc, vous allez nous conseiller un classique, car c'est le principe de cette séquence, un grand classique de la littérature.
Oui, moi j'avais envie de vous conseiller La Comtesse des Digues de Marie Guévers, qui est sortie en 1931. C'est l'histoire de Suzanne qui vient d'apprendre le décès de son père qui était comte des Digues et elle voudrait pouvoir suivre sa profession et donc on la suit pendant une année dans la région des Polders, dans la région d'Anvers. Et donc moi ce qui me plaît dans ce livre c'est qu'on est vraiment plongé au cœur de la nature flamande au début du XXe siècle et que c'est très lent, c'est avec beaucoup de descriptions, beaucoup de détails. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est que Marie Guévers donne beaucoup de place au personnage féminin qui est Suzanne. On apprend que c'est pas facile pour elle de pouvoir suivre les traces de son père alors qu'elle connaît très très bien le métier. Donc c'est arpenter la région de l'Escaut pour vérifier que les digues tiennent bien avant et après les grandes marées.
D'accord.
Et au-delà de l'histoire de l'Escaut, on suit aussi Suzanne qui est une jeune femme d'une vingtaine d'années et qui est à la recherche d'un amoureux et donc on rencontre ses différents prétendants également dans l'histoire.
Voilà, Marie Guévers, grand classique de la littérature belge, La Comtesse des Digues qu'il faut donc lire. Vous écoutez la librairie francophone à la Bibliothèque de Forêt ?
Oui, moi je l'écoute le dimanche sur la RTBF.
Sur la RTBF à midi. Merci beaucoup Bénédicte, à très bientôt.
À très bientôt, au revoir.
Au revoir. On termine avec une musique numéro 1 quelque part dans le monde. Voici le nouveau titre des Cowboys Fringants, titre phare en ce moment au Québec.
Mets ta tête sur mon épaule pour que mon amour te frôle, toi qui en as tant besoin. Ça fait 10 ans et des poussières qu'on fait face au vent d'hiver. Ensemble, on n'a peur de rien. Dis-toi que ce soir, ma blonde, t'es pas seule au monde. Ici-bas, quand on écope, ça a l'air qu'on apprend de la souffrance. C'est sûrement rien que la psychopop. Font rien n'a de sens. Mais ce soir, je l'ai vu, le mouchoir de larmes dans ta poche. J'aime pas ça savoir que tu tiens avec la broche. Mets ta tête sur mon épaule pour que mon amour te frôle.
Un extrait de Sur mon épaule des Cowboys Fringants, titre numéro 1 en ce moment au Québec. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation Cyril Pascal avec Antoine Cruchon et Mathias Alléon. À la rédaction Jean-Philippe Verret avec Christophe Magère et Estelle Gap en France. Jean-Marie Félix et Madeleine Teucher en Suisse. René Mikils avec Valérie Leput en Belgique. Jacqueline Castonguet et Lessa Pépin au Canada. Thierry Dupin était à la prog musicale. La semaine prochaine, nous serons avec Jean-Louis Fournier pour parler de la condition animale, entre autres. Bon week-end à tous et bonne semaine.